Bienvenue dans votre journal d'Haïti et des Amériques. Qu'est-il advenu du photojournaliste haïtien Vladimir Le Gagneur ? Aucune réponse précise de la part des autorités, mais le nouveau ministre de la Culture a laissé entendre qu'il serait mort. Les disparitions forcées qui font régulièrement la une des journaux au Mexique et pour le directeur d'une ONG spécialisée, c'est le fruit de la corruption de l'État. On l'entendra dans un instant. Également au sommaire, les inquiétudes quant à une éventuelle reprise des activités minières en Haïti. L'économiste Camille Chalmers sera l'invité d'Amélie Barreau. Les espoirs de retrouver Vladimir Le Gagneur en vie, douché hier par le nouveau ministre haïtien de la Culture et de la Communication. Deux jours après l'annonce du remaniement ministériel, Guilherme Sedelva a annoncé à demi-mot la mort du photojournaliste porté disparu depuis le 14 mars. Écoutez-le.
Moi-même, Abdino, pour ça que moi-même.
Je vous dis que, pour ce que je connais au sujet de ce dossier, on ne peut pas espérer retrouver notre frère, notre collègue, notre ami Vladimir Le Gagneur, parce que nous avons des informations qui montrent qu'il y a eu un acte barbare commis contre notre confrère, mais on ne va pas en donner les détails ici. Franchement, c'est dévastateur.
Le nouveau ministre haïtien de la Culture et de la Communication, Guilherme Sedelva, qui a été responsable de l'association SOS Journalistes. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend qu'Haïti vient de perdre 7 places au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, glissant au 107e rang. On s'envole pour le Mexique, où les disparitions sont devenues monnaie courante dans le pays. Les autorités ont dit hier être à la recherche de 6 personnes dans l'état d'Oaxaca. Mais ces cas sont loin d'être isolés. L'an dernier, plus de 3500 personnes ont disparu, des disparitions qui révèlent la corruption de l'État mexicain, selon Carlos Gutiérrez, directeur de l'ONG IDEAS.
Dans la ville d'Oaxaca, 3 jeunes hommes ont été détenus par la police municipale. Ensuite, ils ont été libérés. Mais sur la route, en rentrant à Mexico, entre Oaxaca et Veracruz, ils ont disparu, ainsi que 3 autres qui étaient partis à leur recherche. On doit faire le lien entre cette affaire et celle des 3 étudiants en cinéma dans l'état de Jalisco, près de la ville de Guadalajara. Ces deux affaires révèlent l'énorme corruption qui existe au sein des institutions administratives et judiciaires. Je crois que c'est le problème central dans le pays. L'État mexicain, à tous les niveaux, n'est pas capable de mettre en œuvre des actions efficaces parce que la structure de l'État, de l'administration policière et judiciaire en particulier, dans de nombreux cas, est infiltrée par des organisations liées au crime organisé.
Carlos Gutiérrez, joint par Angélica Pérez. Direction le Nicaragua, où la vague de colère populaire ne retombe pas. Les manifestations qui ont fait 37 morts en une semaine, selon une ONG. L'ouverture du dialogue national sous l'égide de l'Église, elle, reste en suspens. Un dialogue qui ne se fera pas dans les meilleures conditions. Écoutez les inquiétudes de Silvio Baez, évêque adjoint de Managua.
Le gouvernement a fait quelques gestes de bonne volonté, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que cela peut être une stratégie des autorités pour que les choses redeviennent comme avant. Malgré tout, les évêques sont prêts à prendre ce risque. Néanmoins, je suis aussi inquiet de voir que ce dialogue commence sans la mise en place d'une commission de vérité qui puisse enquêter sérieusement sur les criminels qui ont tué et torturé nos jeunes. Je suis aussi préoccupé par les mesures répressives prises par le gouvernement du Nicaragua en ce moment. Mais en tant qu'homme de Dieu, nous avons confiance, nous croyons que ce dialogue sera un succès pour le Nicaragua.
Silvio Baez répondait à Carlos Pizarro. Bonjour Marie-Normand.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Vous avez compilé les journaux américains ce matin et à la une de votre revue de presse, cette piste de travail de l'administration à Washington, les autorités envisageraient de séparer les clandestins de leurs enfants.
Oui, c'est ce que révèle un mémo qu'a pu se procurer The Washington Post. Il est adressé à la secrétaire américaine à la sécurité intérieure. Plusieurs hauts responsables des douanes et de l'immigration lui demandent d'incarcérer tous les parents qui tentent de traverser clandestinement la frontière avec leurs enfants. Une mesure qui pourrait séparer des milliers de familles, s'inquiète le journal, mais d'après ce mémo, menacer les adultes de poursuites criminelles et de peines de prison serait le moyen le plus efficace, c'est le terme employé, pour inverser le nombre sans cesse croissant de tentatives de passage, près de 700 par jour la semaine dernière, soit le niveau le plus élevé depuis 2016, selon les auteurs de cette missive.
Et c'est dans ce contexte, Marie, que la caravane des migrants arrive à la frontière américaine après un mois de voyage, une initiative qui visait à sensibiliser l'opinion publique.
Et participer à une caravane ne donne pas de droits additionnels, c'est ce que dit la même secrétaire américaine à la sécurité intérieure. Et des propos repris aujourd'hui par une bonne partie de la presse latino-américaine, notamment la Prensa au Honduras. Les Honduriens, qui constituent 80% des participants à cette caravane, selon Parina Dossé, un journal argentin, quelques 400 migrants se trouvent actuellement à la frontière mexicaine, à Tijuana, et 100 de plus arriveront par autobus dimanche. Leur objectif est de chercher à entrer aux États-Unis légalement en demandant l'asile et non par la force, précise le quotidien. Cette caravane a débuté, je vous le rappelle, avec plus de 1000 personnes qui se sont ensuite dispersées. Certains migrants ont préféré rester au Mexique.
Et les efforts des États-Unis pour limiter l'immigration sur son sol ne s'arrêtent pas à la frontière mexicaine. Quelques 9000 Népalais qui ont un permis de séjour depuis le séisme de 2015 perdront leur statut protégé en juin 2019. Un mot encore des États-Unis. Les professeurs manifestent aujourd'hui dans deux États, Marie.
Oui, l'Arizona, d'abord, où les manifestants demandent le rétablissement du niveau de financement des écoles. Les coupes ces dernières années, cette dernière décennie, ont atteint 1 milliard de dollars, explique Mother Jones. L'État est également confronté à une pénurie d'enseignants dans les salles de classe, explique ce journal en ligne. Il cite les chiffres d'une enquête. 2000 postes n'avaient pas été pourvus 4 mois après le début de l'année scolaire en 2017 et au moins 3400 postes l'ont été, mais avec des enseignants qui ne répondaient pas aux critères.
Et dans le Colorado, 10 000 professeurs sont encore attendus aujourd'hui devant le Capitole de Denver, la capitale de l'État.
Et s'ils font grève, c'est qu'ils sont sous-payés, écrit The Town Talk. L'an dernier, leur salaire moyen à l'échelle nationale était de 58 950 dollars, soit en tenant compte de l'inflation, une baisse de près de 5% par rapport à 2010. Et ces dernières années, beaucoup d'attention a été accordée aux personnes qui servent dans l'armée ou dans les forces de l'ordre, mais les enseignants ont rarement obtenu la reconnaissance qu'ils méritent, juge le quotidien. Il invite cependant les professeurs à balayer un peu devant leurs portes. The Town Talk soutient que leurs syndicats sont connus pour avoir rendu impossible le licenciement de ceux qui n'étaient pas performants et que cette volonté de défendre les mauvais enseignants a considérablement réduit la sympathie que le grand public avait pour les bons.
Merci Marie Normand pour votre revue de presse. Revue de presse qui nous permet chaque jour de vous exposer une pluralité de manières de traiter l'information. Et aux États-Unis, au contraire, un groupe de médias a récemment été pointé du doigt pour sa très grande uniformité. Plusieurs dizaines de présentateurs de chaînes de télévision locales ont en effet été priés par leur maison mère de lire à l'antenne un seul et même texte sur les fake news. Cette maison mère, le groupe Sinclair, est très proche du président Donald Trump. Le dossier de Robin Dussène.
La synchronie est presque parfaite. Ces journalistes américains récitent en chœur, chacun dans leur propre studio, le script fourni par le géant des médias, Sinclair Broadcast Group.
Le partage d'informations biaisées et de fausses nouvelles s'est beaucoup développé sur les réseaux sociaux.
En fait, les présentateurs mettent en garde les téléspectateurs contre les chaînes CNN et MSNBC, pourvoyeuses, selon eux, de fake news. La société Sinclair, basée dans le Maryland, a été créé en 1971 par Julian Sinclair Smith, un ingénieur en électrotechnique proche de l'aile conservatrice des Républicains. Elle détient aujourd'hui 193 chaînes de télévision locales disponibles dans 40% des foyers américains. Timothy Burke, réalisateur de vidéos pour le site Deadspin, est à l'origine du montage qui a fait le tour du web.
On a appris un mois auparavant que Sinclair allait demander à ses présentateurs de lire le même communiqué. Et je me suis dit que ce serait drôle de compiler toutes ces vidéos de journalistes qui récitent la même chose. Ça m'a tout simplement semblé absurde.
Deadspin, ce sont des clips de sport, d'actualité ou de loisirs, mais ce site internet n'est pas connu pour être engagé politiquement. Tim Burke a d'ailleurs été le premier surpris du buzz qu'a suscité sa vidéo.
En fait, la vidéo que j'ai réalisée a vraiment fait réfléchir les gens. Ils se sont rendus compte de la concentration des médias aux États-Unis, notamment quand une seule entreprise, Sinclair, rachète toutes les petites télés locales.
Sinclair s'est déjà illustré par le passé pour son manque d'objectivité. En 2012, lors d'une émission politique, le présentateur de WSYX Columbus, Bob Kendrick, avait été très critique sur le bilan du premier mandat de Barack Obama. Le candidat républicain Mitt Romney avait en revanche été épargné. Pour Will Sommer, auteur d'une newsletter sur les médias conservateurs et éditorialiste pour le journal The Hill, Sinclair revendique son droit à informer autrement.
Un tel réseau de chaînes d'information orientées politiquement, ce n'est pas quelque chose de courant à l'échelle locale aux États-Unis. Évidemment, certaines chaînes câblées sont orientées politiquement, comme MSNBC à gauche et Fox News à droite. Mais cette idée d'une chaîne d'info locale politisée, c'est assez nouveau, d'autant plus que Sinclair est sur le point de détenir 70% du marché de la télévision du pays. À ce niveau-là, c'est du jamais vu.
Une force de frappe qui permet au groupe de diffuser sa propagande pro-Trump, notamment à travers les must-runs, ces programmes qui doivent impérativement être diffusés sur l'ensemble du réseau. Là, c'était Bottom Line par Boris Epstein qui a travaillé pour Donald Trump pendant la campagne électorale. Autre exemple avec le Terrorism Alert Desk. 40 secondes au ton alarmiste où sont condensés attentats, attaques et exactions. Un programme qui ne fait parfois plus la distinction entre djihad et islam. Justin Simmons a travaillé 2 ans pour Sinclair à KHGI, une télé du Nebraska, et ce programme le dérangeait. Ce programme alerte terroriste parlait de terreur généralisée dans le monde entier, et dans certains cas, c'était impossible de vérifier les sources. Donc que tu penses qu'ils aient raison ou non, ça reste un éditorial, et Sinclair demande à toutes les chaînes de le diffuser. C'est ça le problème. J'avais imaginé ne pas diffuser ces programmes obligatoires, mais j'ai découvert que mon patron risquait alors de se faire virer pour ça. Justin Simmons préfère alors démissionner. Impossible pour le jeune producteur de cautionner les directives conservatrices de Sinclair, un empire qui pourrait encore étendre son territoire. Le groupe négocie avec Tribune Media pour acheter ses 42 chaînes locales, montant de la transaction 4 milliards de dollars.
Un dossier signé Robin Dussen.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti va-t-elle relancer les activités minières sur son territoire? Il y a déjà eu dans le pays des exploitations de cuivre et de bauxite, mais ces activités ont cessé depuis les années 80. Aujourd'hui, les gisements d'or de la moitié nord du pays suscitent l'intérêt de grandes compagnies internationales. Depuis 2013, sur décision du Sénat, aucune extraction n'est autorisée, mais les inquiétudes grandissent car le flou sur ce secteur perdure, comme en témoigne l'économiste et activiste Camille Chalmers. Il répond à notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron.
Les informations ne sont pas toujours disponibles, mais les différentes communautés avec lesquelles on travaille affirment qu'il y a pas mal d'activités d'exploration. Il y a autour de 8 à 9 entreprises qui sont concernées, et les plus importantes, c'est la Newmont Mining Corporation, qui est la deuxième la plus importante sur le marché de l'or au niveau mondial, qui est une entreprise américaine de Vermont. Une nouvelle venue, c'est la 3D, qui est de l'Australie, qui apparemment a acheté les permis de certaines entreprises canadiennes comme la Eurasian. Donc ce sont ces entreprises-là qui s'activent dans la zone de Trou du Nord, dans la zone du plateau central sur la frontière et aussi dans la zone de Jean Rabel.
Pour le moment, il n'y a pas de permis d'exploitation, c'est de l'exploration.
Oui, ce sont des permis d'exploration, puisque les 3 permis d'exploitation qui avaient été accordés par le gouvernement Martelly en décembre 2012 avaient dû être ajournée à cause de la décision du Sénat qui avait demandé un moratoire pour que la situation soit clarifiée sur les différents gisements qui existent et que l'État élabore une politique pour le secteur minier qui permette de faire des choix intelligents en relation avec les autres objectifs de développement.
Et ce diagnostic de savoir quelle richesse le sous-sol haïtien possède et comment l'exploiter, est-ce que ce diagnostic est fait et si oui, par qui?
Bon, il y a des diagnostics très anciens qui avait été fait notamment par l'OEA depuis les années 70. Et le premier ministre Lamotte avait sollicité une entreprise de l'Afrique du Sud pour faire un diagnostic global du potentiel minier. Mais ce diagnostic n'est toujours pas disponible. Il reste très, très confidentiel jusqu'à présent.
Il existe.
Il existe, mais il n'est pas disponible. Et il n'a pas été publié et il n'est pas non plus cité par les différents organes du gouvernement, le Parlement non plus ne l'utilise pas. Donc c'est un diagnostic morné qui n'est pas vraiment utilisé dans le cadre de la réflexion sur les politiques publiques.
Haïti a signé l'accord de Paris. Est-ce que ce n'est pas contradictoire du coup cette relance de l'industrie minière avec les engagements sur la scène internationale?
Tout à fait. Quand on regarde la situation objective d'Haïti, nous sommes un petit territoire surpeuplé exposés à des risques importants, inondations, cyclones, tremblements de terre. Évidemment, développer des industries minières en Haïti, surtout pour l'exploitation de l'or à ciel ouvert, implique des changements considérables sur le plan des territoires disponibles, notamment pour l'agriculture. Dans les mêmes projets affichés par le gouvernement, on parle de tourisme comme priorité. Donc, on ne voit pas comment conserver un paysage qui est déjà abîmé avec la grande crise environnementale que nous avons. Comment combiner cela avec de grandes exploitations minières qui, évidemment, représentent un véritable désastre dans la destruction des paysages, dans des migrations forcées qui expulsent des quantités de gens de leurs terres et de leurs habitudes au niveau de l'agriculture. Donc, évidemment, nous pensons que le choix de l'implantation éventuelle d'une industrie aurifère à grande échelle serait un choix très malheureux et qui entre en contradiction avec les autres éléments, notamment du PSDH, Programme stratégique de développement d'Haïti, qui est censé être la boussole adoptée officiellement par l'État haïtien. Donc on est dans une situation d'attentisme et en même temps, les populations concernées sont très inquiètes parce qu'elles voient arriver des entreprises minières très puissantes avec beaucoup d'argent, beaucoup d'offres, beaucoup de promesses. Ce sont des populations qui sont livrées à elles-mêmes et qui très souvent signent des accords sans savoir exactement quel est l'impact de ces accords.
Camille Chalmers au micro d'Amélie Baron. Le journal de l'Outre-mer avec Edwige Saint-Thomas de La Première, bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Edwige, les élus de Guadeloupe tentent de trouver des solutions pour faire face au manque de médecins.
Oui, dans l'archipel, on compte 66 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 100 pour 100 000. La situation est même plus compliquée à l'intérieur du territoire. C'est le cas du Sud Basse-Terre, où les habitants ne disposent en moyenne que de 30 généralistes pour 100 000 habitants. Un véritable désert médical qui inquiète les élus locaux. Ils tentent de trouver tant bien que mal des solutions pour permettre à la population de se soigner correctement. Comme l'explique Élie Califère, le maire de Saint-Claude et président de la Fédération hospitalière au micro Guadeloupe La Première, de Ronan Poney.
La ville de Saint-Claude a initié depuis quelques années et cherche à faire triompher ce projet-là avec docteur de Saint-Claude, une maison pluridisciplinaire de santé où on pourrait trouver quelques professionnels, disons, de la médecine afin que les personnes soient bien soignées et qu'il y ait un parcours de soins. Nous avons un gros souci pour faire arriver les médecins. À Saint-Claude, nous avons un seul médecin pour 10 000 habitants. Et quand un cabinet médical est ouvert à Saint-Claude, le seul, il ferme ses portes vers 22h30. Et quand vous n'avez pas de médecin, vous voyez quand même une fuite vers là où on peut en trouver. Et vous voyez des personnes qui quittent le territoire et parfois dès 4 heures du matin pour se trouver une place dans des cabinets. Donc c'est un souci qui a déjà été exposé à l'ARS, que nous avons exposé au niveau de la Fédération hospitalière française.
Pas de cours pour les élèves de la ville du Robert en Martinique aujourd'hui. Tous les établissements scolaires sont fermés, au moins jusqu'à jeudi prochain, conformément à un arrêté de la mairie. C'est la conséquence de l'arrivée massive des algues sargasses sur les plages proches des établissements scolaires. Le syndicat d'enseignants SE-UNSA réclame des crédits pour endiguer ce fléau. Pendant ce temps, François Bayrou, de passage dans le département, propose ses pistes pour venir à bout de ces algues brunes qui envahissent les côtes antillo-guyanaises. Le président du MoDem participe depuis hier, un colloque Caraïbes-Europe organisé sur 2 jours par le Parti démocrate européen, dont il est également le coprésident. Selon lui, les solutions pour en terminer avec les algues existent.
C'est quoi les sargasses, ces algues-là? C'est de la matière vivante. Si c'est de la matière vivante, on peut en faire de la biomasse. On peut faire en sorte que ça produise de la chaleur ou de l'énergie, de l'électricité.
Il faut donc développer un pôle recherche.
Il faut développer un pôle recherche et un pôle technologie.
Ouais.
Parce que c'est pas d'une technologie si compliquée. Vous savez que nous avons, en métropole, en Bretagne en particulier, il y a eu des phénomènes de cet ordre, développement d'algues, en particulier parce que les engrais azotés faisaient créer un milieu dans lequel les
algues
pouvaient
se
développer. Et ces algues vertes, on peut les traiter.
François Bayrou répondait à Martinique La Première. Et puis le 27 avril 1848, plusieurs décrets ont été pris en faveur de l'abolition de l'esclavage aux Antilles. La ville de Chelcher en Martinique a décidé à cette occasion de lancer une série de manifestations jusqu'au 22 mai, date où les esclaves ont brisé leurs chaînes. C'est la fin de cette édition. Excellente journée.
Merci Edwige Saint-Thomas. Et on vient de l'apprendre, le président de la Fédération brésilienne de football, Marco Polo Del Nero, a été exclu à vie de toute activité dans le football par la FIFA. Exclusion pour des faits de corruption. C'est la fin de votre journal d'Haïti et des Amériques. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jonathan Brady de l'avoir réalisé. Anne Verdaguet sera de retour au micro lundi. En attendant, excellent week-end.